Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'invité de cet après-midi s'appelle
Jean-Louis Serre.
Il est professeur à l'université de Versailles et il enseigne la génétique. Avec lui, nous entamons la dernière semaine de Pas la peine de crier qui est presque naturellement consacrée au mélange. Ça commence.
Chaque individu de l'espèce humaine se distingue par la couleur de ses yeux, de ses cheveux, la couleur de sa peau, etc. Certaines variétés de roses se distinguent par la couleur des pétales. Certaines races de lapins se distinguent par la forme des oreilles, par la couleur de leur pelage, etc.
Souvent l'on dit du mélange qu'il est joyeux, parce que c'est une expression française dont l'usage est bien ancré, le joyeux mélange, mais aussi et tout simplement parce que souvent c'est vrai. Qui dit mélange dit au moins deux éléments différents, et au mélange on oppose la pureté, je ne ferai pas de dessin sur ce que l'idée de pureté entraîna comme dérive. Ceci dit, nous avons choisi ce dernier thème, car cette émission a clairement fait le pari du mélange depuis le début. Depuis 4 ans, sans vous livrer le mode d'emploi, nous avons mis au menu de la lecture à voix haute, de l'entretien, toutes les disciplines qui nous rendent curieux, de la poésie, des images, des musiques. On vous a suggéré de secouer énergiquement pour ne pas laisser la pulpe dans le fond. On organise une joyeuse fin à ce joyeux mélange, promis. Il est 16h passé de 1 minute, vous écoutez France Culture et c'est pas la peine de crier. Vers 16h13, si tout le monde se concentre, apparaît un Polaroid. Ce sont les 4 derniers Polaroids. Alors j'ai demandé à Miss Chanel, qui en a fabriqué avec moi plusieurs centaines, de choisir 3 parmi ceux qu'elle préférait. Vers 16h20, notre invité parle génétique. C'est la première étape fondamentale d'une semaine consacrée donc au mélange. Et vers 16h50, nous écouterons les poèmes de Piero Bigongiari. Avant, à 17h, de retrouver les équipes du 5 à 7. Et pour ce dernier déballage de bibliothèque, c'est Romain de Bec-de-Lièvre qui est allé à la rencontre de notre lectrice de la semaine. Delphine Rich choisit aujourd'hui de partager avec vous un extrait de Edmé au bout de la table d'Edmé Renaudin. On écoute.
Juliette. À la fin de cette année 1910, arriva dans la maison une solide petite bonne femme de 19 ans, la nouvelle femme de chambre de ma mère. La maison s'anima. Des petits talons légers la parcoururent et elle résonna d'une musique nouvelle le rire de Juliette. C'était une cascade, des perles qui tombaient rondes et sonores, des arpèges ou des trilles. Ça éclatait surtout quand elle avait oublié quelque chose, mais aussi quand elle nous faisait un récit, une visite comique ou une dispute avec la cuisinière. Ma mère était toute indulgence pour sa jeune servante. Cependant, on lui fit dire par son oncle l'électricien qu'il fallait qu'elle eût eu un peu plus de tête. Ce qui la fit rire de nouveau un bon coup. Juliette était sociologue sans le savoir. C'est elle qui nous apprit peu à peu les structures sociales de la société d'alors, si cloisonnées. Son souci, bien qu'elle nous aimât beaucoup, c'était que nous n'eussions ni orgueil ni mépris. « Ah, n'allez pas vous croire !» s'écriait-elle. C'était pour elle un critère. Les gens qui se croyaient encouraient de sa part un mépris qui touchait à la haine. Et nous ne manquions pas de leçons concrètes, quoique parfois contradictoires. « La cousine de votre maman est là, » nous dit-elle un jour. « Elle est très chic. »« Ah, comment est-elle ? » ?»« Eh bien, elle a un beau manteau avec de la fourrure. Et puis, vous savez, c'est une comtesse. »« Qu'est-ce que c'est au juste ?» dit ma sœur. « On ne nous parlait pas de ces choses-là. »« C'est chic, » dit-elle. « Plus chic que vous. Ce sont des deux. Des nobles. »« Ah bon ? » ?»« Et puis, ils ont un hôtel particulier et un chauffeur. »« Mais c'est la mère d'Anne et d'Andrew !» Les seuls enfants que parfois nous allions voir. Leur mère était morte toute jeune et leur père avait ensuite épousé sa sœur cadette. Ma mère était la cousine germaine des deux sœurs. « Eh bien oui, vous ne saviez pas que leur papa est comte ?»« Non, nous ne savions pas. »« Eh bien, conclut-elle, tout ça c'est du pareil au même. Ils ne sont pas mieux que les autres, pas mieux que leurs domestiques par exemple. »« Sûrement pas, » dit ma sœur. Et pour clore l'entretien, elle reprit son livre. Un autre jour, comme la petite fille du rez-de-chaussée sautait à la corde dans le jardinet d'en bas, je m'écriais. « Mais pourquoi ne sommes-nous pas ses amies à celle-là ? Nous pourrions aller jouer avec elle dans le jardin ?»« mais non, c'est impossible, » dit Juliette. « Ce n'est même pas la peine de demander à votre maman. »« Mais pourquoi enfin ? Elle n'est pas malade, elle court tout le temps. » À la fin, Juliette le dit. « Ses parents sont juifs. » Et elle s'arrêta. « Bah, Et alors, dit ma sœur. Moi, j'étais interloqué. Juif comme Abraham, comme Salomon, et même peut-être comme Jésus. Juliette était ennuyée, elle en avait trop dit. Ils ne vont pas à la messe, ils ne sont pas catholiques. Et elle ajouta aussitôt, mais n'allez pas croire que vous êtes mieux surtout. Ils sont aussi bien que vous, même peut-être mieux. Mieux, pas mieux, on en avait assez. Pourquoi mieux ? Ils sont plus riches, dit-elle. Et elle s'arrête à court, elle perd des pieds. Quoi, dit ma sœur, qu'est-ce que ça fait ? Rien du tout, dit Juliette. Riche ou pauvre, c'est du pareil au même, il y a des braves gens et c'est tout. Là-dessus, elle s'en alla, prétextant qu'elle allait repasser. Je voulais lui arracher un secret. Juliette, dis-nous comment viennent les bébés. En secret, nous la tutoyons. Dis-le, dis-le, nous sommes assez grandes. Ah non, non, demandez à votre maman. Mais elle ne veut rien nous dire, moi non plus. Et la voilà, qui rit. Nous insistions et lui reposions l'éternelle question. Un jour, elle nous dit, écoutez les enfants, si je vous le dis, on me renverra tout de suite. C'était donc si grave que cela ? Bah, dit ma sœur philosophiquement, on le saura bien un jour. Juliette, son dimanche de congé, un sur deux, partait en robe claire. Elle venait nous dire au revoir. Je me souviens encore de son petit canotier avec trois cerises sur le côté qui dansait gaiement. Avec ses amis, jeunes femmes de chambre comme elle, elle partait à Villacoublay pour voir les avions et les aviateurs. Le soir, elle revenait animée, ravie, nous décrivait les loopings, les feuilles mortes, les vols sur le dos avec un avion de papier fabriqué par elle à l'aide d'une feuille de cahier. « Ah, Pégou !» disait-elle. « Pégou, celui-là, c'est mon petit chéri. »
Delphine Riche, vous venez nous lire un extrait de « Edmé au bout de la table » d'Edmé Renaudin, qui est donc votre grand-mère.
Absolument.
Qui a écrit ce livre dans les années 70.
Voilà.
Pourquoi vous avez choisi ce texte ?
Bah écoutez, le premier texte auquel j'ai pensé, quand vous avez pensé à moi, c'est celui-là. D'abord parce que je voulais lui rendre hommage. Et puis, quand le livre est sorti, moi, j'étais très gamine, donc je n'ai pas tellement pris conscience de la valeur de tout ça. Et bon, je l'ai lu, mais bon, les histoires de personnes âgées, quand on est très jeune, voilà, ça vous semble un peu lointain, tout ça. Donc je n'y ai pas tellement pris garde. Et puis, une fois adulte, je me suis replongée dedans et ça m'a... extrêmement émue. J'ai trouvé que c'est d'abord que c'était un hommage familial formidable. C'était, en plus, au départ, ma grand-mère avait écrit simplement pour nous, pour ses petits-enfants. Et puis, il se trouve que le hasard a fait qu'elle avait donné le script à ma mère. Et ce jour-là, ma mère avait rencontré Claude Roy. Et Claude Roy lui a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce manuscrit que tu as ?» Et elle a dit « Oh, c'est ma mère qui a écrit ça, c'est l'histoire de sa famille. Elle a écrit ça pour mes petits-enfants. » Et Claude Roy lui a dit « Mais attends, j'aimerais bien le lire. » Il lui a dit « Ah bon, tu veux dire, bon, si tu veux. » Donc elle lui a donné le texte. Et puis Claude Roy était un homme extrêmement curieux. Et le lendemain, il lui a dit « Mais écoute, c'est formidable, il faut absolument que ça soit édité. » Et du coup, il l'a fait envoyer à plusieurs éditeurs, dont Stock. Et Stock était emballé et ils ont même créé elles-mêmes Stock, où c'était des femmes qui racontaient leur vie. Et le premier roman de ma grand-mère a été publié chez Stock, chez elles-mêmes. Et alors c'était marrant parce qu'elle ne se rendait absolument pas compte de tout ça. Elle trouvait ça absolument normal finalement. Donc elle passait dans les émissions télé. Elle était très à l'aise, elle n'avait rien à prouver puisqu'elle avait 70 ans. Et à la suite de ça, elle a écrit deux autres livres qui sont la suite... voilà, de l'histoire de sa famille. Il y a eu Edmé la bague au doigt, où elle racontait son mariage, et puis Sans fleurs au fusil, qui était la Deuxième Guerre. Voilà, et là, donc, c'est un livre qui commence en 1910, où elle a 6 ans, pendant la Belle Époque, et puis ça se poursuit pendant la guerre. Voilà, la guerre de 14-18, donc 60 ans après, elle a raconté voilà, son enfance, son quotidien, sa vie familiale... avec voilà, l'atmosphère de l'époque et puis du point de vue d'elle et de sa sœur aînée. Voilà, ce sont plein de petits chapitres avec une écriture très belle, très simple, très impressionniste où voilà, elle nous raconte à la fois la vie familiale, les domestiques, les vacances, la mort, l'arrivée de la guerre et tout ça d'un point de vue d'enfant.
Et ça fait, il y a un côté chronique, ça fait penser à Marcel Proust en fait.
Oui, il y a quelque chose de ça.
Ouais. La relation avec la bonne.
Voilà, et puis aussi à l'époque, bon, les enfants dans les familles bourgeoises n'avaient pas tellement droit à la parole, donc ça s'appelait Edmé au bout de la table parce qu'elle était au bout de la table, et c'était une petite fille très curieuse, donc elle écoutait, elle observait, Elle avait beaucoup d'humour. Je trouve que ça m'a surpris. Parce que ma grand-mère était quelqu'un qui était extrêmement attaché aux convenances. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. On était très proches, mais on s'est disputés terriblement. On était toutes les deux dans une provocation terrible, notamment en ce qui concerne les histoires de milieu, comme ça a été abordé dans le chapitre, où pour elle, il fallait absolument qu'on se marie avec quelqu'un de son milieu. C'était extrêmement important. Donc évidemment, je vous disais que si je tombais amoureuse d'un communiste, eh ben, peut-être je partirais avec lui, d'un ouvrier. Donc elle me disait que ce n'était pas possible, que je ne pourrais jamais être heureuse avec quelqu'un qui ne serait pas de mon milieu. Donc ça se terminait en général en pleurs, enfin moi, enfermée dans ma chambre. Et elle me provoquait sans cesse, mais je pense qu'elle avait aussi beaucoup de fantaisie, finalement. Et quand je vois d'où elle vient, finalement, toutes ses racines, je comprends aussi que parfois, voilà, il y a eu ces moments de points de rupture entre nous, mais tout ça avec beaucoup de tendresse.
Quelle musique vous voudriez nous faire entendre après la lecture de ce texte ?
Alors, je voudrais Philippe Jaroussky, Cum Dederit, Vivaldi.
Demain, Delphine Riche poursuit le déballage de sa bibliothèque et nous lira un extrait du Mur invisible de Marlène Haushofer. En attendant, Miss Chanel a fait son top 3 des Polaroïdes. Parmi des centaines fabriquées chaque jour en direct pour vos oreilles et vos cerveaux pleins d'images en 4 saisons, voici son premier choix. Il date du 7 mars 2011, c'était à 16h19 à l'époque, c'était son premier tout court. Et c'est un Polaroïde de circonstance. Aux 3 coups de sifflet, certaines épaules se sont relâchées, des nuques automatiquement levées vers le ciel. Certains yeux se sont vite tournés vers la tribune, puis la pelouse, puis la tribune. Une vague de cris a parcouru le stade dont on ne pouvait définir s'il s'agissait de cris de joie ou de déception. Les gars se sont pris dans les bras, un peu brutalement mais pas sans tendresse. Ils ont rejoué l'éternel échange du maillot, échange sueur contre sueur adverse à défaut de pouvoir modifier le score. Bruno, capitaine, Marcel Blanc, court à petite foulée, ses chaussettes sont descendues sur ses chevilles, laissant à l'air libre ses horribles protège-tibias. Son maillot pend au bout de son bras, il se dirige vers l'entrée des vestiaires. Un homme l'attend, micro tendu, l'air moitié suppliant, moitié voleur. Un petit mot, Bruno ? Oui, bah, je dois dire qu'on n'a pas démérité, on n'a pas pris les 3 points, mais on a fait un match solide, je pense. Première rencontre, il nous a manqué quelques automatismes. Mais bon, c'est certain qu'en face, il y a l'efficacité qu'on n'a pas eue. On a montré un bon état d'esprit, je crois que c'est plutôt de bon augure pour la suite de la coupe. Là, une question que Bruno n'entend même pas. Il dit des mots qu'il a dit 1000 fois, avec l'accent sur les mêmes syllabes. Bon, bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Bruno. Bonne soirée. C'est ainsi que termine le journaliste. Bruno repart en trottinant, la scène ralentit, ses épaules fument dans l'air glacé au-dessus de la pelouse, les projecteurs font obstacle à toute l'obscurité de l'heure. Très paradoxalement et sans les mots pour le dire, il a l'air un peu crevé, le dieu du stade. I was walking far from home, where the names were not burned along the wall. Saw a building high as heaven, but the door was so small, door was so small. I saw rain clouds, little babies, and a bridge that had tumbled to the ground. I saw sinners making music, and I've dreamt of that sound. I was walking far from home, but I carried your letters all the while. I saw lovers in a window, whisper, warn me like time, warn me like time. I saw sickness blooming fruit trees. I saw blood and a bit of it was mine. I saw children in a river, but their lips were still dry, lips were still dry. I was walking far from home, and I found your face mingled in the crowd. Saw a boat full of believers sail off talking too loud. I saw sunlight on the water, saw a bird fall like from the sky. An old woman on a speed train, she was closing her eyes, I saw flowers on a hillside, and a millionaire pissing on the lawn. Saw a prisoner take a pistol and sing, join me in song, join me in song. Saw a car crash in the country, where the prayers run like weeds along the road. I saw strangers stealing kisses, giving only their clothes, only their clothes. Saw a white dog chase its tail, and
a pair of hearts carved into a stone. I saw kindness and an angel crying, take me back home, take me back home. Saw a highway, saw an ocean. I saw widows in the temple to the Lord, naked dancers in the city. How they spoke for us all, spoke for us all. I saw loaded linen tables and a motherless colt, then it was gone. I saw hungry brothers way down with a radio on, radio on. I was walking far from home, where the names were not burned along the wall. So a wet road formed a circle, and it came like a call, came like a call from the Lord.
Je me suis évidemment trompée, puisque si le Polaroid qu'on vient de fabriquer date du 7 mars 2011, à l'époque c'était bien à 6h19 que ça passait. Pour ce Polaroid, on écoutait Iron and Wine avec Walking Far From Home. Demain, la suite du top 3 de Miss Chanel.
C'est triste d'avoir des utilisations de la flamme.
Vous écoutez Pas la peine de crier sur France Culture, c'est la deuxième partie de notre émission et c'est le premier moment d'une semaine entièrement consacrée au mélange. La génétique est au cœur du vivant et au cœur de la génétique, on trouve le mélange à plusieurs étages. Le mélange de gènes paternels et de gènes maternels dont nous sommes au contact d'un environnement et d'un milieu à l'importance primordiale, la traduction. L'infinité des combinaisons mélangées possibles qui fait de chaque individu unique et enfin le mélange des populations qui aboutit au brassage génétique encore et toujours à l'œuvre dans l'espace humain, probablement accru par les phénomènes de mondialisation. Jean-Louis Serre, vous enseignez la génétique sous plusieurs formes aussi à des étudiants de l'université de Versailles. Vous êtes notamment l'auteur d'un petit livre passionnant aux éditions du Cavalier Bleu, La génétique dans la collection des idées reçues. Bonjour et bienvenue, merci d'ouvrir cette semaine.
Bonjour.
Bon, puisque vous commencez ce livre en disant l'importance fondamentale qu'il y a à extrêmement bien définir les termes que l'on utilise quand on fait de la science et quand on fait tout ce genre de discours d'ailleurs, on va commencer par dire que nous, humains, nous ne nous reproduisons pas. Qu'est-ce qu'on fait si on ne se reproduit pas?
Ah ben, on procrée. On procrée comme la plupart des animaux et des végétaux. C'est-à-dire qu'il faut deux individus pour générer des cellules sexuelles qui ensuite, par fécondation, vont constituer un nouvel individu unique. Unique au sens où jamais aucun individu semblable n'a existé avant et vraisemblablement aucun n'existera après.
Pourquoi on utilise le mot reproduction? Il s'applique à qui alors?
Oh ben parce qu'en fait, le terme de reproduction, c'est un terme qui s'est imposé dans l'histoire des sciences, à un moment où on ne savait pas très bien quels étaient les mécanismes en jeu. Alors aujourd'hui, on fait attention, on dit de la reproduction sexuée. Donc quand on parle de reproduction sexuée, on sait qu'en fait, ce n'est pas de la reproduction au sens littéral du terme. Parce que reproduire, c'est avoir quelque chose d'identique à la chose qui précède.
Il y a des espèces vivantes qui se reproduisent et qui fonctionnent de cette manière-là, qui...
Il y a des espèces qui, par exemple, peuvent, où les individus peuvent se couper en deux et donc former deux individus séparés. Hein, c'est par exemple ce qui se passe avec l'hydre. Donc, il y a une scission. Et donc, il y a deux individus différents. C'est exactement ce qui se passe dans le monde végétal lorsque vous avez du marcottage. À ce moment-là, vous avez des racines qui donnent...
Qu'est-ce que c'est les marcottages pour les gens qui ne sont pas jardiniers?
Alors, c'est une racine qui s'allonge, qui donne un nouvel individu. Puis ensuite, évidemment, entre les deux individus, ça dégénère. On a deux individus identiques. C'est ce que vous faites aussi quand vous faites du bouturage. Vous prenez une tige de géranium, vous la mettez en terre, ça fait un nouveau géranium qui est identique au géranium sur lequel vous avez pris la tige.
C'est comme un accroissement.
Ça, c'est vraiment de la reproduction. Vous avez deux individus identiques.
Bon, et nous, donc, on ne se reproduit on procrée.
On procrée,
et
voilà.
Même si on l'a dit beaucoup de fois, on va réexpliquer comment.
Voilà le moment qu'attendait l'ovule. Il devient subitement actif, mais contrairement au spermatozoïde, n'est pas encore tout à fait prêt pour la conception. Elle n'aura lieu que lorsque le spermatozoïde aura atteint sa destination et libéré la moitié de son bagage génétique dans ce que l'on appelle le corps polaire, que l'on voit ici au bord de l'ovule. On distingue maintenant deux petits points avec des gènes. L'un appartient au père et l'autre à la mère. Ils se rapprochent très lentement l'un de l'autre. Leur union est un processus extrêmement délicat. À la plus petite erreur, l'embryon pourrait mourir ou développer un fœtus déformé. En fait, près de la moitié des conceptions échouent. Mais nous assistons ici à l'aboutissement d'une union parfaite.
Alors, si l'union est parfaite, la vulgarisation ne l'est pas complètement. Jean-Louis Serre, c'est un extrait du documentaire Le miracle de la vie. On entend donc la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule. Je vous ai passé, parce qu'elle est maintes fois racontée, la course de tous les spermatozoïdes qui vont au plus fort.
La course à l'échalote.
Exactement. Mais il y a quelque chose qui est dit dans ce commentaire de documentaire, à savoir que le spermatozoïde, au moment où il féconde l'œuf ovule, libère la moitié de son patrimoine génétique. Or, ça, ce n'est pas vrai.
C'est complètement faux.
Il faut donc revenir à la fabrication des gamètes dans les organismes séparés que sont l'organisme de la femme et l'organisme de l'homme. Qu'est-ce qui se passe quand on fabrique des gamètes? Puisque ce sont des cellules très particulières.
Des cellules très particulières. Ben écoutez, c'est simple, il y a deux organes génitaux. Il y a l'ovaire dans le sexe féminin, il y a le testicule dans le sexe masculin. Et dans ces deux organes, très tôt dans la vie embryonnaire, quand ils ont commencé à se former, ils ont été colonisés par des cellules qu'on appelle les cellules germinales. Ce sont des cellules qui ne sont absolument pas différenciées, c'est des cellules souches. Hein.
Donc elles sont omnipotentes à ce moment-là?
Non, elles ne le sont plus. Elles sont déjà capables uniquement de faire des gamètes, des cellules sexuelles. Donc elles ont une certaine différenciation. Et donc elles sont programmées, ces cellules, pour entamer une division particulière. Alors le terme scientifique c'est méiose, mais bon, ce qu'il faut bien comprendre c'est que dans cette division particulière, à l'issue de cette division, on aura d'un côté un ovule dans le sexe féminin et de l'autre côté un spermatozoïde dans le sexe masculin. Et ces deux cellules sexuelles, ces deux gamètes, l'ovule et le spermatozoïde, n'ont plus que la moitié des gènes des cellules germinales.
Donc, contrairement à ce qui est dit dans le documentaire qui disait le spermatozoïde avec une sorte de patrimoine génétique complet arrive et ne décharge
il a déjà que la moitié.
En fait, il n'a que la moitié.
Il a déjà que la moitié.
Comment, puisque le reste des cellules contiennent la totalité du patrimoine génétique de l'individu, comment se fait le choix dans la gamète, côté spermatozoïde et côté ovule? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait? Quelle moitié on garde finalement?
Il n'y a pas de choix, c'est le hasard. Alors c'est une forme de choix, mais c'est le hasard comme à pile ou face. C'est-à-dire que lorsque vous avez plusieurs centaines de milliers de cellules germinales qui dans le testicule vont faire des spermatozoïdes et à partir d'une cellule on en fait quatre, au fur et à mesure de la division, les gènes sont séparés. Alors il faut savoir qu'on a deux copies de chaque gène. Donc, à un moment donné, les deux copies sont séparées dans deux cellules différentes. Et si on a grand A et petit a pour un gène et grand B et petit b pour un autre gène, on peut avoir grand A et grand B d'un côté, petit a et petit b de l'autre, ou bien grand A et petit a et grand B. Par conséquent, il y a toute une combinatoire qui fait que, dans la mesure où on dispose d'à peu près 30 000 gènes, on n'en transmet que 15 000. Vous imaginez le nombre de combinaisons que ça génère.
Chaque gamète, chaque ovule et chaque spermatozoïde contient ses propres 15 000 à lui, c'est-à-dire contient sa propre formule de moitié.
Voilà.
Puisqu'on parle de mélange, il faut arriver au moment où ces deux moitiés se rencontrent et reforment une unité. Et c'est pour ça que l'on ne transmet pas son patrimoine génétique à sa descendance, on ne transmet que la moitié de l'information qui permet...
La moitié de son patrimoine, si vous voulez. Mais c'est jamais la même moitié. Il faut bien comprendre que si dans une famille, on a deux enfants ou trois enfants ou quatre enfants...
On n'a pas transmis la même chose.
Chaque parent n'a transmis que la moitié. Mais évidemment pas la même moitié, puisque vous avez une combinatoire qui est due à un tirage au sort, hein, qui est due au hasard. Et par conséquent, si vous avez deux garçons, vous n'avez jamais transmis la même moitié. Alors évidemment, il y a dans les moitiés...
Ni la moitié de la mère.
Ni la moitié de la mère. Mais évidemment, dans la moitié qui est transmise, il y a un certain nombre de gènes identiques qui sont transmis. C'est pour ça que les frères se ressemblent. Mais il y a aussi des moitiés différentes. C'est pour ça que les frères sont dissemblables.
Est-ce que c'est une proximité génétique qui se mesure? Est-ce que l'on peut dire, voilà, entre un frère et une sœur, il y a une proximité de tant de parts de gènes identiques?
Tout à fait. Ça c'est les modèles de la génétique des populations permettent de dire qu'il y a une proximité génétique. La proximité génétique est bien plus importante entre frères et sœurs. Elle est moins importante entre cousins germains, etc.
Entre parents et enfants?
Entre parents et enfants aussi, puisque forcément, vous avez dans vos gènes, la moitié de vos gènes correspond à la moitié que vous avez transmis à votre enfant. Par conséquent, vous partagez la moitié de vos gènes.
Est-ce qu'il y a plus grande proximité entre un frère et un frère, ou un frère et une sœur, bref, plus grande proximité entre deux individus d'une même fratrie qu'entre n'importe quel autre être humain sur la planète? Est-ce que c'est vraiment la plus grande proximité, la fratrie?
Statistiquement, oui. En termes de calcul des probabilités, oui. C'est la plus grande proximité, oui.
En revanche, on peut...
Il y a le cas spécial des vrais jumeaux.
Alors, c'est quoi le cas spécial des vrais jumeaux?
Alors, le cas spécial des vrais jumeaux, ça renvoie à l'exemple du géranium de tout à l'heure. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un ovule qui a été fécondé par un spermatozoïde et qui a donné une cellule initiale, qu'on appelle l'œuf.
Ça, c'est pour tout le monde pareil.
Pour tout le monde pareil.
Le zygote.
Le zygote, voilà. Mais je ne voulais pas employer de termes d'origine.
Je l'ai fait à votre place.
Bien, et puis cette cellule œuf va se diviser en deux, puis elles vont se diviser en deux, ça va en faire quatre, puis huit, etc. Et assez tôt, dans ce processus de division cellulaire, avant que les cellules commencent vraiment à se différencier et puis à sculpter l'organisme, assez tôt, et pour des raisons qu'on ignore, ce massif cellulaire se sépare en deux massifs.
À peu près, quand vous dites assez tôt, c'est-à-dire à peu près à quel stade de division? Il y a combien de cellules de chaque?
Il y a plusieurs situations, puisque là, il y a également les en dehors des jumeaux vrais, il y a les siamois, donc ceux qui sont
pas séparés,
etc. Mais disons que j'ignore précisément à quel stade ça se passe, disons dans les premiers jours. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir deux individus qui sont évidemment génétiquement identiques puisqu'ils sont issus du même massif cellulaire, mais ils se sont complètement séparés et ils peuvent conduire à deux jumeaux vrais qui sont tous les deux séparés dans deux poches amniotiques différentes. Donc il y a tous les stades possibles, parce que parfois vous avez des jumeaux vrais qui sont dans la même poche amniotique. Enfin, c'est assez varié comme situation. Mais ce qui en résulte, ce sont deux individus qui sont génétiquement identiques.
Qui sont génétiquement identiques, et on va voir dans quelques instants
qu'ils sont pas... C'est pas pour autant qu'ils vont faire la même chose.
Exactement.
Et qu'on ramène toujours à l'actualité des mélodies, des modes, des mouvements qui rôdent encore quelques traces d'identité dans les mémoires, dans les armoires, les mélanges de nos histoires, mélangés par nos
nos origines qui laissent souvent je ne sais quelle spleen planer dans nos têtes, ancrée dans nos cœurs, sur que nos ancêtres en gardent quelques épines dans les célèbres camps et dans les fous de camps, des mélanges à feu et à sang.
Jean-Louis Serre, on terminait par l'évocation à l'instant des cas des vrais jumeaux. Et c'est une bonne occasion de repartir de ce cas-là, puisque dans cette chanson, il est question du mélange de mémoire, mélange d'histoire, mélange d'armoire. Si les deux jumeaux sont deux êtres, deux individus au patrimoine génétique proprement identique, ça ne fait pas d'eux des êtres moins uniques que nous tous qui ne sommes pas, nous tous les autres qui ne sommes pas jumeaux. Pourquoi ? Parce que le patrimoine génétique ne suffit pas à fabriquer un individu. Quel est l'autre mélange qui opère à ce moment-là ?
Alors un mélange, ou en tout cas, une adjonction, une synergie, oui, on ne se développe pas dans une sorte d'espace éthéré, indépendamment de toute réalité matérielle. On interagit avec l'environnement matériel à travers la nutrition. Il faut bien ingérer de la matière pour pouvoir grandir. On a également des interactions psychiques, sociales, etc. De sorte que ce qui constitue l'individu dépend évidemment pour partie de ses gènes, dépend également de tous les événements qui sont survenus et qui peuvent modifier d'ailleurs l'expression des gènes. Si on prend des maladies aussi simples que l'intolérance au gluten, on sait très bien ce que c'est.
C'est localisé sur
On connaît les facteurs génétiques de risque. Il y a un facteur très important qui est dans le complexe majeur d'histocompatibilité. Il a été identifié, etc. Et on voit que lorsqu'on a des jumeaux vrais, si l'un des deux développe une maladie cœliaque, l'intolérance au gluten, la concordance, c'est-à-dire la probabilité que le deuxième le fasse aussi, c'est 70%. Donc ce 70% montre d'abord que la probabilité est forte. Ça veut dire bien qu'il y a un facteur génétique puissant qui opère, mais qu'il n'est pas suffisant. Puisque finalement, dans 30% des cas, le jumeau vrai qui est génétiquement identique ne développe pas cette maladie.
Tout comme vous évoquez très rapidement le fait que le patrimoine génétique puisse être modifié, c'est ce qu'on appelle par exemple des mutations génétiques, le fait d'avoir une première information génétique n'est pas forcément stable jusqu'à la fin de notre vie.
Alors, il faut distinguer d'une part les cellules germinales que j'évoquais au début, c'est-à-dire celles qui vont tout de suite aller coloniser les organes génitaux. Et si ces cellules subissent une mutation, cette mutation est transmissible. Par contre, il y a le reste de l'organisme qui est constitué de ce qu'on appelle les tissus somatiques, c'est-à-dire l'ensemble des tissus qui ne participent pas à la procréation. Alors évidemment, dans ces tissus somatiques, avec l'âge, il y a toute une série de cellules qui s'accumulent avec des mutations sur l'ADN des gènes, oui. Et parfois même, ces mutations ne sont pas bonnes du tout, parce que, comme on le sait, les cancers sont des maladies génétiques de la cellule. C'est-à-dire une maladie où des cellules ont accumulé suffisamment de mutations pour être dérégulées et se multiplier de façon anarchique et constituer des tumeurs au sein desquelles d'autres cellules accumulent de nouvelles mutations qui entraînent des propriétés, enfin si on veut les appeler comme ça, en tout cas des particularités qui sont évidemment dangereuses pour l'organisme à partir du moment où par exemple elles peuvent se détacher de la tumeur primaire, aller faire des métastases, coloniser un petit peu l'organisme et altérer la physiologie. Elles ne sont pas transmissibles.
Elles ne sont pas transmissibles, voilà. Parce qu'elles n'ont pas colonisé.
Et c'est pour ça qu'on dit que les cancers sont des maladies génétiques de la cellule, parce que ils ne sont pas héréditaires,
mais c'est là
sauf un petit pourcentage qu'on appelle les formes héréditaires de cancer. Il y a les formes héréditaires de cancer du sein, c'est 5% des cas, etc. etc. Évidemment, la réalité est un peu compliquée, hein, je le conçois.
Qui oblige à dissocier ce que l'on dit être hérédité ou héréditaire et ce que l'on dit être génétique, car touchant au génome et touchant à l'information génétique. Pour en revenir à ce deuxième mélange ici dans cette émission, à savoir l'interaction, c'est ça qu'il faut dire, entre l'information génétique et l'environnement.
Oui.
Est-ce que ça joue à la souche ? C'est-à-dire, est-ce que un gène chez vous. Mettons, vous et moi, on a un gène identique. On a une information.
On en a sans doute plusieurs, d'ailleurs.
On en a plusieurs. Bon. Est-ce que l'environnement dans lequel j'ai grandi et l'environnement dans lequel vous avez grandi, où je me suis développée et où vous êtes développée, fait que forcément, l'information, le code géné ou transmis par ce gène s'exprime différemment chez moi et chez vous ? Forcément.
Dans les tissus somatiques, c'est envisageable parce qu'on a découvert depuis un peu moins d'une vingtaine d'années les phénomènes qu'on appelle l'épigénétique. Alors l'épigénétique, ce sont des mécanismes moléculaires qui ne modifient pas la séquence chimique du gène en elle-même, au niveau de ce qu'on appelle les fameuses bases, le code, hein, mais qui vont modifier soit les protéines qui entourent l'ADN, ce qu'on appelle les histones, soit éventuellement parfois le gène lui-même en ajoutant des petits radicaux qu'on appelle les radicaux méthyles. Alors ça peut modifier les conditions d'expression du gène. Donc ça, c'est vrai que d'une certaine manière, l'environnement peut modifier les modalités d'expression des gènes en apportant ces radicaux qu'on appelle les radicaux méthyles de l'épigénétique.
Sinon, quel est le rôle de l'environnement et du milieu sur l'information génétique ou sur l'expression, la traduction de l'information génétique ? C'est toujours la question de l'inné, de l'acquis, de l'acquis, de l'inné.
Il n'y a pas vraiment de...
Mesure de ce rôle.
Il n'y a pas vraiment de modification de l'information génétique due au milieu. Simplement, ce qui se passe, c'est que, par exemple, je peux prendre l'exemple de l'immunité. On a un certain nombre de gènes qui sont impliqués dans le développement du système immunitaire. Le développement du système immunitaire consiste à générer des cellules qui sont capables de fabriquer des anticorps contre les agents qui agressent l'organisme, et également des cellules tueuses, qui sont le siège de l'immunité cellulaire. Sauf que l'information génétique, elle est capable de construire le système, mais le système ne va fonctionner qu'à partir du moment où il a rencontré des microbes. Autrement dit, on construit son immunité. Et la meilleure façon de comprendre qu'on construit son immunité, c'est tous les parents qui ont des enfants en crèche, et ben ils savent que ces enfants-là font beaucoup plus de rhume et de rhino que s'ils restaient à la maison. Tout simplement parce qu'ils rencontrent beaucoup plus de microbes. Mais ils font leur immunité.
Principe du vaccin, d'ailleurs.
Voilà. Alors, si je prends maintenant, je reviens à l'image des jumeaux vrais. Les jumeaux vrais, ils ont dans leur bagage génétique tout ce qu'il faut pour faire un système immunitaire. Et ce sont les mêmes gènes. Eh ben, ils vont faire un système immunitaire complètement différent. Même s'ils vont à la même crèche, et même s'ils rencontrent les mêmes microbes, parce qu'en réalité, face à ces microbes, eh bien, on va pas construire exactement les mêmes anticorps. Donc, vous voyez, c'est cette image de la synergie entre les gènes qui sont là pour faire créer un système et le faire fonctionner, ce système va avoir besoin d'une information extérieure pour pouvoir être fonctionnel. Alors, c'est facile à comprendre pour l'immunité. Je vais faire la translation. C'est à peu près ça aussi pour le système nerveux, en particulier pour le système nerveux central, c'est-à-dire le siège de la mémoire, de l'intelligence, de la relation logique, etc. La meilleure façon d'avoir de la mémoire, c'est quand même de l'avoir exercée. Et donc, les gènes donnent au cerveau les capacités d'exercer la mémoire. Mais si on ne l'exerce jamais, on n'en a pas.
On a choisi par exemple l'Asie centrale parce que c'est une zone du monde où vous avez deux groupes de populations, des populations qui parlent une langue turque, qui sont de tradition plutôt nomades éleveurs et qui côtoient des populations de langue indo-iranienne, le tadjik, qui sont traditionnellement plutôt agriculteurs. Donc en fait, c'est ce qui nous intéresse fondamentalement, c'est d'aller regarder dans le détail dans certaines zones du monde. Alors en pratique, nous, on va sur le terrain.
Oui.
Sur le terrain, on échantillonne des gens, c'est-à-dire qu'on leur prend de l'ADN. On fait des enquêtes linguistiques et ethnologiques. Donc là, on a échantillonné un peu plus de 1000 individus. Et après ça, on compare les populations entre elles. C'est-à-dire qu'on calcule des distances génétiques entre les populations. Et on regarde comment les populations se répartissent en fonction de leur distance génétique. Et quelque chose qui a de surprenant en Asie centrale, c'est que dans la plupart des populations humaines, les populations sont d'autant plus proches génétiquement qu'elles sont proches géographiquement. C'est-à-dire qu'en fait, des populations vont être proches parce qu'elles échangent des individus. Naturellement, dans les populations humaines, on va avoir tendance, si on se marie à l'extérieur, à se marier pas trop loin. Donc, de proche en proche, les populations humaines se ressemblent. Et en fait, en Asie centrale, ça n'est pas le cas. Des populations qui sont très proches géographiquement vont être très différentes génétiquement parce qu'elles parlent des langues différentes. C'est-à-dire les gens choisissent plutôt d'aller se marier très loin, à 1000 km de là, mais avec quelqu'un qui parle la même langue, plutôt que de se marier dans la population d'à côté.
Jean-Louis Serre, on entend ici Evelyne Ayer, professeure en anthropologie génétique au Muséum national d'histoire naturelle, qui revient sur ses travaux en Asie centrale et qui nous fait changer d'échelle d'un seul coup. Jusqu'à maintenant, nous avons été à l'échelle de l'individu et nous avons parlé du mélange qui s'opère à l'intérieur de première œuf du zygote, entre le patrimone génétique de la mère et la moitié du patrimone génétique, voilà. et celle du père. Là, on passe à l'échelle de la population. À partir de quand peut-on dire que les populations se mélangent et opèrent un brassage génétique ?
Elles se mélangent tout simplement lorsque deux individus de deux populations différentes font individuellement le mélange génétique dont on a parlé au début de l'émission. Mais dans le cas des deux populations d'Evelyne Ayer, celle qui est tadjik et celle qui est turque, le problème c'est qu'on a des langues différentes, des modes de vie différents, des histoires différentes et une structure clanique. Une structure clanique qui, je le rappelle, est quand même historiquement le mode identitaire le plus ancien de l'humanité. Or, quand on est dans une structure clanique, on ne se marie pas en dehors du clan. Par conséquent, évidemment, il y a un certain nombre de fossés entre des populations qui peuvent être géographiquement très proches.
C'est ça qu'on appelle d'ailleurs des populations, parce que de quoi on parle quand on parle de population ? Puisqu'on a créé, on avait créé une enveloppe qui était à l'échelle individuelle, on a dit l'individu est unique, basta. Si on crée une enveloppe qui est plus large, un ensemble qui est plus large, qui est l'ensemble population, sur quelle base on parle de cet ensemble plus large ?
Une population, c'est un ensemble d'individus qui occupent un espace géographique, qui, du point de vue économique et social, entretiennent des relations et qui, surtout, du point de vue biologique, procèdent à une circulation génétique, c'est-à-dire qui
procréent ensemble.
Qui procréent ensemble, voilà. Or, on peut très bien avoir dans un même pays, pour des raisons sociales ou religieuses, des populations qui sont relativement séparées les unes des autres, c'est-à-dire où il n'y a pas d'échange de conjoints, donc pas d'échange de conjoints égale pas d'échange génétique.
Quand on parle de population, on parle d'une certaine homogénéité du patrimoine génétique ?
Pas tant que ça, parce qu'il faut bien voir que à l'intérieur d'une population, il y a quand même une très grande diversité génétique entre les individus. Forcément, puisque, comme on l'évoquait tout à l'heure, la combinatoire est telle que vous avez un très grand nombre de moitiés différentes qui sont transmises, et donc il y a une grande variabilité, une grande variation génétique entre les individus. Ceci étant, quand vous prenez deux populations différentes, eh bien, il y a quand même des différences entre les populations, mais ça, il s'agit de moyennes. Il y a certains gènes qui sont plus fréquents dans la population A, d'autres gènes qui sont plus fréquents dans la population B. Je prendrai un exemple. Si vous prenez les populations du Pacifique, et que je prends le groupe sanguin ABO, il n'y a pas de groupe B, il n'y a pas de groupe AB, parce que le gène B est absent. Donc, les gens sont A ou O.
Mais dès lors qu'ils bougent,
et qu'ils se mélangent, évidemment, à ce moment-là, le gène B qui vient d'ailleurs rentre dans la population, et donc évidemment que on va augmenter la variabilité de la population par le mélange. Ce qui ne veut pas dire que la population n'a pas de variabilité, parce qu'il y a quand même une grande variabilité entre individus.
De toute façon, c'est ça. Dès qu'on descend à l'échelle de l'individu,
voilà.
On revient.
Mais aujourd'hui, on assiste à un processus de mondialisation génétique, parce que on est à un stade de l'histoire de l'humanité où la planète est un petit village, comme chacun le sait, et que petit à petit, les gens circulent et finissent par, par former des couples et donc par mélanger leurs gènes.
Mais encore une fois, est-ce que ça produit des mélanges plus importants que le mélange qui a de toute façon lieu entre un individu A et un individu B, même si cet individu A et cet individu B n'appartient pas l'un au pôle Nord, l'autre au pôle Sud ?
Deux pôles où il n'y a pas beaucoup d'habitants, mais enfin, ce n'est pas très grave.
Mais on a quand même le droit de s'unir au pôle Nord et au pôle Sud, sinon c'est dégueulasse.
Bah, ça fait très longtemps qu'on a fait ce calcul. Alors, on avait commencé à faire ce calcul avec les protéines, et puis ensuite, on a fait ce calcul avec les premiers gènes qu'on a connus, et puis maintenant, on peut faire le calcul avec la génomique, c'est-à-dire vraiment avec les séquences d'ADN. Et on tombe à peu près toujours sur la même statistique. Si on considère l'humanité dans son ensemble, c'est-à-dire tous les hommes, les Africains, les Asiatiques, les Européens, etc. Et donc, on a un très grand éventail de variations génétiques pour l'ensemble des gènes. Et si on se restreint à une population, à ce moment-là, on perd à peu près 15% de l'information.
Donc, on peut considérer...
Donc, il y a 85% de la diversité génétique de l'humanité qui réside au sein des populations. Sauf cas tout à fait particulier, parce qu'il en existe. Il y a toujours des cas particuliers en science. C'est le cas particulier de certains isolats, c'est-à-dire des populations qui sont isolées depuis très longtemps et qui sont vraiment très fermées, qui n'ont pas d'échange génétique avec l'extérieur. C'est par exemple les Dogons du Mali ou des populations comme ça. Bon,
Des
Inuits.
Est-ce qu'on peut considérer si 85% en gros de nos possibilités, de vocabulaire génétique, sont contenues dans une population, si tout le monde se mélange beaucoup, on va arriver à avoir chacun dans toutes les populations 100% du vocabulaire génétique. Est-ce que ça veut dire si on reprend l'une des métaphores que vous filez au début du livre, ça signifie qu'on a de plus en plus de vocabulaire, on a de plus en plus de dictionnaires à notre disposition pour parler?
On peut le dire comme ça. Si on considère que le patrimoine
pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs.
Oui, on peut pas émettre des jugements de valeur. Mais c'est vrai que si on considère que le patrimoine génétique d'une population, c'est un dictionnaire avec des mots avec lesquels on fait des phrases, on peut faire un très très grand nombre de phrases différentes grâce à la richesse du dictionnaire. Alors la population d'à côté a un dictionnaire avec peut-être quelques mots différents. Et par conséquent, c'est sûr que si on mélange les deux dictionnaires, eh bien, on pourra faire certaines phrases qu'on pouvait de toute façon pas faire avant, ni dans la population A, ni dans la population B. Alors, est-ce que ce sera mieux, est-ce que ce sera moins bien, ça,
Quand je dis pour le meilleur et pour le pire, c'est évidemment pas un jugement de valeur, mais c'est plutôt du point de vue des processus d'évolution et des processus de sélection et des processus d'adaptation. Est-ce qu'il n'y a pas des patrimoines génétiques qui sont principalement adaptés, je sais pas, à un endroit, à une façon, à une zone géographique où ça, c'est une ânerie?
Oui, alors
c'est
très difficile d'établir un lien étroit entre le patrimoine génétique d'un individu et sa capacité adaptative à l'environnement dans lequel il est. En fait, on est tous plus ou moins bien adaptés. La sélection naturelle telle que l'ont vu Darwin, puis ensuite ses successeurs, elle semble être surtout une sélection qui vraiment élimine vraiment ce qui est très, très, très inapte. Alors évidemment, ça élimine quand même des combinaisons. Et dans les combinaisons, il y a des gènes.
Pour conclure cette discussion, et notamment pour revenir au départ, à savoir le mélange suppose deux éléments différents et au mélange, on oppose la pureté. Il n'y a pas de pureté à l'origine de l'homme. On peut considérer ça comme ça?
Alors ça, les généticiens connaissent bien la pureté tout simplement parce qu'ils la construisent au laboratoire. Au laboratoire, on construit des souches pures pour pouvoir faire de la génétique simple. Mais on sait que dans la nature, il n'y a pas de souches pures. Par contre, il n'y a pas de souches pures au sens des souches pures du laboratoire, c'est-à-dire qui, pour tous les gènes, ont deux copies identiques. Ça, dans la nature, la pureté génétique, ça n'a pas de sens pour le biologiste.
« cette semaine, dernière séquence pour le poème du jour aussi, et nous choisissons d'entendre de la poésie italienne. C'est Piero Bigongiari qui est lu par Michel Favoré de la Comédie Française. Piero Bigongiari est né dans la province de Pise en 1914 et mort à Florence en 1997. Les poèmes sont traduits par Antoine Fongaro et étaient parus à la différence en 1994. Et le recueil s'appelle Ni terre ni mer. On écoute Michel Favoré.
Espace, la minute t'attend, la belle minute, pleine d'oiseaux de l'hiver dans les ronces. Elle déborde en une note aiguë, affamée dans le soleil. Et tu ne trouves pas, tu n'as pas d'elle. Tu as faim d'une nourriture qu'on ne peut toucher. La cruche à la cuisine répand une eau glacée. Ta bouche de feu, un stigmate, un sceau. Peut-être le chant rauque de l'ivrogne qui ce soir a arboré le soleil des désastres. Dans ce ciel sans astres, dans ces ruelles.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire.
Jean-Louis Serre, c'est vous qui avez proposé d'entendre ce titre de Johnny Cash. Pourquoi ?
Oh, parce que ça me fait penser à un tourbillon. Et ce tourbillon est directement relié au joyeux mélange génétique dont on parlait. Et donc, voilà. C'est depuis l'origine des temps, le mélange génétique résulte vraiment de ce tourbillon
de feu
des individus. Voilà. Voilà.
Chanté par Johnny Cash, The Ring of Fire, qui nous permet de conclure cette émission. On s'est appuyé pour la préparer sur la génétique parue aux éditions Reçues, aux collections Idées Reçues et aux éditions Le Cavalier Bleu. Merci beaucoup Jean-Louis Serre d'avoir été avec nous. Pour écouter cette émission, franceculture.fr fonctionne parfaitement. Vous pourrez vous abonner sur le site au podcast de l'émission qui s'appelle Pas la peine de crier, celui du poème du jour, du poème du jour, du poème du jour, du poème du jour. J'ai bugué. Pour nous écrire, le formulaire fonctionne fonctionne parfaitement sur la page. Aux manettes aujourd'hui, c'était Virginie Cassagne. Merci à Cyril Baer, Inès Duperron et Romain Debecq-Delièvre qui pensent et préparent cette émission avec moi. Une émission réalisée par Anne-Laure Chanel. On sera là demain à la même heure, même radio, dans un instant le 5 à 7.